Nous accueillons donc maintenant Monsieur Snyder, à qui je laisse immédiatement la parole.
Le 10 septembre 2001, c'était, vous l'avez remarqué, la veille du 11 septembre, un homme qui devait participer aux attentats le lendemain, nommé Mohamed Atta, a loué une chambre dans un motel à côté de New York, avec un de ses complices. Le lendemain, il était donc disposé à prendre son avion pour le faire cracher contre les fameuses tours, comme tout le monde le sait. Dans sa chambre d'hôtel, vous avez peut-être entendu parler de ce fait, dans sa chambre d'hôtel, il y avait la photo d'une femme qui était habillée, en l'occurrence, mais qui avait l'épaule dénudée. Eh bien, cet homme qui devait donc se suicider le lendemain en tuant au passage 3000 autres personnes, cet homme a demandé à la direction une couverture ou une serviette, quelque chose qui lui permette de couvrir l'épaule dénudée sur la photo de cette femme. Et l'idée que je voudrais développer, j'y reviendrai, c'est que c'est la même chose de mettre son avion contre les tours en tuant 3000 personnes et de faire couvrir la photo d'une femme un tout petit peu dénudée. Ou plus exactement, je pense que les deux actes proviennent de la même source. Je vais y revenir d'ici peu. Si vous me permettez une anecdote plus personnelle, puisque notre thème est comment libérer l'enfant, en particulier, dirais-je, le jeune enfant, de ses angoisses. Quand mon fils aîné avait 5 ans, j'ai trois fils qui ont aujourd'hui 19, 17 et 11 ans, ça fait donc un bon moment. Quand il avait 5 ans, il me demandait « Papa, est-ce que je peux te tuer ?» Il me le demandait 20 fois par jour. Il était très gentil, il ne disait pas qu'il voulait me tuer, il me demandait la permission. Il est resté gentil, mais voilà, c'est comme ça qu'il faisait à 5 ans. Et je dirais que toute ma modeste science à ce moment-là, quand il me demandait « est-ce que je peux te tuer ?», était de lui répondre non, mais de lui répondre non de manière à ce qu'il ne soit pas effrayé et de manière à ce que 5 minutes plus tard, il me pose à nouveau la même question, ce qu'il faisait. En général, je lui répondais non d'une manière suffisamment douce pour que non seulement il recommence donc 5 minutes après, mais qu'en plus il sourit, voire même il éclate de rire. Pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce que la première chose, me semble-t-il, pour tenter de libérer un enfant de son angoisse, la toute première chose, c'est d'essayer de faire qu'il ne se sente pas coupable de son agressivité naturelle, inévitable, normale, contre ses parents, et pour un garçon en particulier, contre son père. Le but étant, pour citer la psychologue, la psychanalyste Alice Miller, le but étant que l'enfant grandisse non pas contre son agressivité, mais avec elle. Et si on réussit à ce que l'enfant grandisse avec son agressivité, je veux dire qu'il n'ait pas peur de lui-même, alors je pense qu'on lui fait un cadeau tel qu'il n'y en a pas de semblable. Il y a tant de gens dans notre monde qui ont peur, et avoir peur, vous le savez, c'est bien souvent avoir peur de soi-même, ou plutôt d'une partie de soi-même qui n'a pas été acceptée durant l'enfance. Si la partie qui, pour l'enfant, semble la plus difficile à accepter, c'est-à-dire son agressivité, si cette agressivité est acceptée, n'est pas trop vivement combattue, disons, par son père et par sa mère, je lui disais quand même non quand il me posait la question, mais enfin, encore une fois, d'une façon à ce qu'il ne se sente pas coupable, si cette agressivité est acceptée par les parents à qui elle s'adresse, alors que je pense que l'enfant a des chances de mieux grandir. Parfois, quand il avait dit cette phrase, « Est-ce que je veux te tuer ?» plus souvent que d'habitude dans la journée, j'avais quand même l'impression, malgré la manière dont je lui répondais, qu'il se sentait un peu coupable. Et à ce moment-là, j'allais le voir avant qu'il ne se couche, et je lui disais quelque chose du genre, « Tu sais, tous les petits garçons ressentent des choses comme ça vis-à-vis de leur papa. » Et pour bien lui montrer que ce n'était pas gênant, je lui disais qu'à son âge, je ressentais la même chose vis-à-vis de mon propre père et que ça n'avait pas eu d'effet dommageable, comme il pouvait s'en rendre compte en voyant son grand-père près de lui. C'est-à-dire que j'essayais, d'une part, de lui montrer que son agressivité était normale, naturelle, inévitable, et d'autre part, et je dirais surtout, que cette agressivité ne me faisait pas de mal à moi qui en étais le destinataire principal. Vous connaissez la célèbre phrase de Winnicott, « Dans l'esprit de l'enfant, il faut, dit Winnicott, qu'il puisse penser « Je peux tuer l'objet, l'objet de mon agressivité, je peux tuer l'objet, il survivra. Je peux tuer l'objet, il survivra. » Et si l'enfant, encore une fois, est sûr que son agressivité, à laquelle il ne peut pas échapper, tout enfant normal en éprouve, s'il est sûr que cette agressivité, encore une fois, ne fera pas de mal à la personne, le parent, père ou mère, auquel elle s'adresse, eh bien, je pense qu'il sera soulagé d'un poids immense et que ça lui fera évidemment beaucoup de bien. La plupart des enfants se pensent encore une fois coupables de leur agressivité et pensent qu'elle peut faire du mal autour d'eux. J'ai voulu de toutes mes forces lui dire que ça ne pouvait pas faire de mal. Pour résumer ce que je viens de dire, la première fonction des parents, s'ils veulent atténuer, et je ne dis pas enlever, c'est impossible, l'angoisse de leurs enfants, c'est d'essayer de déculpabiliser leurs sentiments, encore une fois, les plus naturels. Et j'ai pris donc un premier exemple, celui de l'agressivité. J'en prendrai un second, ou plutôt deux à la fois, à savoir, parce qu'ils sont malgré tout relativement proches, à savoir la sexualité et ce qu'on appelle l'éducation à la propreté. Je m'excuse de reprendre un exemple, encore une fois, personnel, mais là encore, ce garçon, donc mon fils aîné, quand il avait, je dirais, 3 ans, eh bien, comme tous les petits-enfants de son âge, il passait un certain nombre d'heures, de moments, je ne sais pas, à se caresser le sexe. Et naturellement, je n'intervenais pas, ça n'est pas, je crois, du ressort des parents d'intervenir. Mais il m'est arrivé, je dirais, pas plus d'une demi-douzaine de fois, entre l'âge de 3, 4 et 5 ans, de lui dire, quand je voyais, quand j'avais l'impression qu'il s'en sentait coupable, de venir le soir, alors que, donc là encore, ça me paraît le moment propice aux confidences, et de lui dire que s'il éprouvait du plaisir en faisant cela, eh bien, il avait le droit de le faire. Je lui ai dit ça 5 ou 6 fois, pas plus, parce que je ne voulais quand même pas intervenir. Je ne lui ai pas demandé de le faire, ce qui m'aurait semblé contrevenir à sa liberté, naturellement. Mais simplement, je lui ai dit que ça ne gênait pas, qu'il avait encore une fois le droit, tout simplement parce que je ne voulais pas que cette activité, que tous les enfants pratiquent, bien entendu, devienne une sorte, enfin, soit à ses yeux une sorte d'activité semi-clandestine, je dirais, seulement tolérée, qu'il sache que ça ne faisait de mal à personne et pas non plus à moi, son père, puisque naturellement on sait bien que c'est dirigé en partie en fantasme à l'égard de la mère, et donc l'enfant peut craindre que le père n'en soit fâché, et j'essayais donc de lui montrer le contraire. Et donc là encore, je pense que sur ce plan, quand on sait à quel point les angoisses liées au sexe sont immenses, je dirais à quel point même elles font, osons les grands mots, le malheur de nos sociétés, certes un malheur de nos sociétés, tant la répression peut être intense, eh bien je pense que, sans aller trop souvent, parce qu'il faut laisser l'enfant tranquille, on ne déculpabilise jamais assez les enfants sur ce plan. J'ai appris il n'y a pas très longtemps, en lisant Françoise Dolto, que avant la guerre, je suppose que ça ne se fait plus maintenant, avant la guerre, on attachait certaines familles hyper rigoristes, attachaient les mains de leurs enfants pour éviter la nuit, pour éviter qu'ils ne se masturbent donc dans son lit. On en était là encore, paraît-il, enfin Françoise Dolto le dit, elle doit être au courant, dans certaines familles minoritaires, mais tout de même, avant la guerre, j'ai appris, là encore, il n'y a pas très longtemps, que, beaucoup plus grave encore que ça, les petites filles au 19e siècle surtout, mais encore au début du 20e siècle, qui se masturbaient, eh bien, on faisait une sorte d'excision à l'européenne ou à l'américaine, d'ailleurs, puisque ça se faisait là-bas, c'est-à-dire qu'on leur mutilait le sexe donc pour qu'elles n'éprouvent pas de plaisir, pour qu'elles ne recommencent pas. Et c'était, il y a 100 ans, ça n'est pas si vieux que cela. Donc, je veux dire, on en était encore à un degré de répression sexuelle complètement fou. Et je répète, il me semble que déculpabiliser l'enfant là-dessus est le devoir de tout parent. J'en connais encore de nos jours. Il se trouve que ma femme dirige une école maternelle. Je connais encore des parents qui mettent de grandes gifles à leurs enfants quand ils les voient en train de se masturber. Ça existe encore aujourd'hui en 2004. Par conséquent, l'affaire est d'importance. Je ne parle même pas des civilisations où je dirais que le sexe est encore aussi tabou qu'il l'était en France il y a 100 ans, civilisations qui sont nombreuses, et eh bien, ça donne des gens fous, on ne peut pas dire autrement, puisque le désir sexuel étant inévitable chez tout individu, vous savez que si on s'y oppose véritablement, eh bien, c'est comme de s'opposer à la vie même de l'individu, et d'une certaine manière, la vie n'a plus d'importance. Je suppose que si ce Mohamed Atta, pour y revenir, voilait comme ça les épaules des filles, ne pouvait pas voir une fille, même un peu dénudée, fût-ce en peinture, eh bien, c'est parce qu'on lui avait instillé depuis le berceau la peur, la haine de tout ce qui est le sexe. Et quand on vous instille ça, encore une fois, dès le berceau, je dirais que c'est d'une certaine manière un meurtre, parce que c'est tellement consubstantiel à l'être que tuer ça, c'est presque tuer l'individu en question. Donc qu'est-ce que ça peut faire de se tuer soi-même plus tard, voire de tuer, encore une fois, 3000 personnes quand on est soi-même, quand on a été l'objet d'un meurtre, ce qui ne veut naturellement pas dire que cet acte soit excusable. On essaye uniquement, bien entendu, d'expliquer. C'est de cela qu'il s'agit. Et la troisième chose donc, dont je voulais parler en préambule, si je puis dire, c'est donc l'éducation à la propreté. J'ai appris qu'il existait dans l'est de la France un établissement pour enfants, une sorte d'internat pour enfants qui n'arrivait pas à réaliser, qui n'arrivait pas à devenir propre, mais je veux dire vers 8, 10, 12 ans encore, qui n'arrivait pas donc à réaliser cette éducation à la propreté, qui là encore est d'une importance fondamentale. On peut bien entendu, on peut en rire parce que ça fait partie des sujets supposés amusants, voire ridicules dans notre société. Il n'empêche que ça reste fondamental, on ne peut pas dire autrement. Je m'excuse de reciter une anecdote, mais voilà, cette fois-ci c'est mon troisième fils qui, quand il avait 4 ans, on m'excusera d'être concret, mais voilà, quand il avait, pas tout à fait 4 ans, disons 3 ans, 3 ans et demi, il avait pris l'habitude de faire caca sur la moquette. Il y a de la moquette chez moi, par conséquent, c'était un petit peu gênant. Un jour, je me souviens, j'étais seul avec lui, je lui ai dit, tu sais, papa et maman ne t'engueuleront jamais, jamais, d'aucune façon, n'élèveront jamais la voix contre toi pour ça, sur le côté pipi-caca, quoi que tu fasses, jamais on ne t'engueulera. Le soir, il m'a dit, tu sais, le problème de caca s'est terminé. Et ça a été terminé. Voilà, pour toujours. Par conséquent, je crois qu'il n'y a pas deux méthodes, et cela depuis le début de la vie. Encore une fois, ce sont des détails qui peuvent sembler trop concrets, mais il n'y a pas de détails dans l'exécution, comme on dit. Et je crois que ça n'est pas parce que je l'ai appliqué comme cela, je l'ai découvert, à vrai dire, sur le moment, sans préjugés. Je crois que c'est la seule méthode possible, la seule qui fasse qu'un enfant soit complètement tranquille sur ce plan-là. Naturellement, comme tous les parents, comme vous tous, j'engueule mes enfants quand la chose se présente, mais je dirais que sur ces deux plans-là, la sexualité et l'éducation à la propreté, je crois qu'il ne faut jamais, d'aucune manière, élever le ton contre un enfant. Pour d'autres choses, c'est nécessaire. Pour ça, je crois, jamais, si on veut qu'il soit tranquille sur ces deux plans qui sont fondamentaux pour la construction de soi. Je vais essayer maintenant, après avoir parlé donc un peu de l'agressivité, de la sexualité et de la propreté, je vais essayer de développer rapidement, en 5 points, ce qu'à mon avis les parents peuvent faire pour atténuer sur d'autres plans, sur l'ensemble, donc l'angoisse de leur enfant. Je pense tout d'abord qu'il faut éviter à tout prix les menaces. Je parle naturellement quand l'enfant est petit. Il y a des menaces, les parents souvent ne s'en rendent pas compte, qui sont effrayantes, y compris des choses qui sont dites pour rire. Dans la lettre au père, Kafka raconte que quand il était tout petit, il avait 2-3 ans, son père disait, en lui courant après comme ça, pour rire, autour de la table de famille, son père disait « Je vais te déchirer comme un poisson ». Bien. Et Kafka disait « Plus tard, j'ai compris que c'était pour rire, j'ai compris que tu ne me ferais jamais rien », dit-il à son père. Seulement sur le moment, quand il avait 2-3 ans, il ne le comprenait pas. Un enfant petit prend les menaces au pied de la lettre, très au sérieux. Et donc les choses qu'on dit comme ça, y compris, ça peut sembler excessif, mais comme ça, avec la meilleure intention du monde, je vais te manger, je vais te croquer, des choses qui sont gentilles au fond. Je crois qu'il vaut mieux les éviter, parce qu'encore une fois, un petit enfant, je dirais jusqu'à au moins 7-8 ans, prend les choses très au sérieux, y compris les choses qui pour nous sont les plus fantaisistes, que nous ne voyons pas du tout comme méchantes. Je crois que ça aussi, il faut y faire attention. Il me semble que, pour parler spécifiquement du père, le père a été pendant très longtemps celui qui devait apporter la peur. Vous connaissez la phrase fameuse que tant de mères, paraît-il, prononçaient autrefois, « Tu vas voir papa quand il va rentrer ce soir ». Donc le père, autorité, menace et peur. Je crois qu'un des grands progrès du 20e siècle, outre l'accession de la femme à l'égalité avec l'homme, qui n'était pas réalisée avant ce siècle, outre l'accession de la femme à l'égalité, un des grands progrès, c'est l'accession des hommes à la tendresse. Les pères, désormais, peuvent se montrer tendres sans être ridicules. Il n'y a qu'à voir les publicités à la télévision. Vous voyez, depuis à peu près 10 ans, pas plus, 10-15 ans à peine, des pères qui changent leur bébé, qui sont gentils avec leur enfant, encore une fois, qui n'ont pas pour vocation principale, voire unique, premièrement d'apporter l'argent à la maison, deuxièmement de faire peur à l'enfant. Et ça, le fait que les pères, comme les mères, aient droit à la tendresse, me semble une conquête, je dirais, fondamentale. Et je crois qu'il faut que nous en profitions, nous autres pères, pour être aussi tendres que les mères. Certains disent que l'enfant, du coup, ne va plus s'y retrouver, va confondre son père et sa mère. Je ne le pense pas du tout. J'ai essayé, comme je tente de vous l'expliquer, quand mes enfants étaient petits, d'être un père pas trop méchant. J'engueulais mes enfants, naturellement, quand il le fallait, mais on va dire pas trop méchant. ça ne les empêchait pas à un moment donné, les deux grands, quand ils avaient 6-7 ans, ils m'avaient surnommé Papa Féroce. Comme ça, ils m'appelaient, ils me disaient passe-moi un bout de pain, Papa Féroce. Ce qui veut dire que ma férocité, que personnellement je ne ressentais pas à leur égard, eh bien, je veux dire qu'ils n'appelaient pas leur mère comme ça. Ils ressentent parfaitement que la rivalité, si je puis dire, ils ressentaient que la rivalité était avec leur père, un père qui essayait, bon, ça ne veut pas dire que, voilà, mais enfin, qui essayait d'être tendre, eh bien, ce père, ils ne le confondaient en rien avec leur mère. Et encore une fois, ils voyaient parfaitement que ce qu'on peut appeler la rivalité, et qui naturellement n'empêche pas les bons sentiments, ce qu'on peut appeler la rivalité, ils savaient très bien avec qui ils l'avaient, la tendresse, ou ce que j'essayais de donner de tendresse, ne changeait rien à cet égard. Et je dirais que je parle en ce moment des menaces, des choses à éviter pour donc essayer d'atténuer l'angoisse. La première chose, je viens de le dire, c'est donc à éviter les menaces. Et je dirais que la pire menace, peut-être, il y en a beaucoup, hein, n'est-ce pas ? Dans les familles religieuses, on pourra dire que ne fais pas ça parce que Dieu te voit, Dieu te regarde, y compris ce que tu fais sous les draps, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est une menace terrible, parce que si l'enfant se sent observé tout le temps, je crois que bon, on peut croire en Dieu sans forcément dire à l'enfant que ce Dieu est effrayant, qu'il le regarde du haut du ciel et qu'il voit, y compris ce qu'il fait dans les recoins les plus secrets de son intimité. Bien, je pense qu'on peut, si on croit en Dieu, donner un Dieu normal, un Dieu qui ne soit pas si austère, qui ne soit pas si dur, sinon l'enfant ne peut en être que très effrayé. Mais on peut aussi laïciser cette menace en disant, je ne sais pas, n'importe qui, les gendarmes vont venir te prendre si tu fais ça, etc. Je crois que là aussi, religieux ou pas, il faut faire très attention à ce genre de menace, ou plus exactement, il ne faut pas en faire du tout. L'autre menace qui me semble absolument capitale à éviter, c'est la menace du retrait d'amour. Si tu fais ça, je ne t'aimerai plus. On sait que l'enfant peut tout entendre, mais il ne peut pas entendre, ou du moins c'est dramatique pour lui, que ses enfants, que ses parents vont cesser de l'aimer. Ça n'est pas possible. Et je dirais même qu'il faut essayer de faire le contraire. Et quand je disais que les pères avaient droit à la tendresse, eh bien, une des choses, à mon avis, qu'ils doivent faire, qu'il est bon de faire, en tout cas si on veut enlever l'angoisse, c'est de dire à ses enfants tout simplement qu'on les aime, et c'est valable naturellement pour les pères ou les mères, voire les grands-parents, pourquoi pas. Je dirais que de la part des parents, ça me semble tout à fait nécessaire. Non seulement ne jamais dire à l'enfant « je ne t'aimerai pas si tu fais cela », mais lui dire de temps en temps, pas tout le temps, il ne faut pas le saouler comme disent les jeunes aujourd'hui, mais lui dire quand même de temps en temps, surtout quand il est petit, que ses parents l'aiment. Beaucoup de gens pensent que ça va de soi, qu'un enfant ressent ça. De toute façon, beaucoup de parents à qui j'en parle me disent « mais ma fille ou mon fils sait très bien que je l'aime ». Je ne le crois pas du tout. Je pense qu'il y a tant de choses que ressent l'enfant comme coupable qu'il vaut mieux lui dire qu'on l'aime. Ça ne peut pas faire de mal. Ça ne peut pas faire de mal, et je dirais même que ça lui apprend quelque chose bien souvent, en particulier quand il a fait des choses, encore une fois, qu'il ressent comme mauvaises. Donc je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de cela. Et alors, quand il a fait ce qu'il est convenu d'appeler une bêtise, on ne peut pas lui dire tout de suite qu'on l'aime, parce qu'il faut naturellement quand même lui dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait, sans lui dire pour autant qu'il est méchant, mais qu'on n'est pas d'accord. Mais je dirais qu'une fois que le calme est revenu, quand on a parlé, quand on a crié, puis quand on a un peu parlé de la bêtise en question, eh bien, je pense que la phrase clé est de lui dire « Je continuerai à t'aimer, tu sais, même si tu fais des bêtises et quoi que tu fasses. Je continuerai à t'aimer quoi que tu fasses. » Tout en disant qu'on souhaite naturellement qu'il ne refasse pas la chose en question. Mais savoir qu'on continuera à l'aimer malgré cela, je pense que là, l'enfant encore est libéré d'un grand poids, parce que faire une bêtise pour lui, c'est mettre en danger l'amour que ses parents lui portent. S'il est sûr de cet amour, alors je pense qu'il peut se construire. Un enfant qui a la chance de croire à l'amour de ses parents, à l'amour que ses parents lui portent, est un enfant sauvé. C'est comme ça que je vois les choses. et par conséquent, encore une fois, le lui dire de temps en temps pour l'en assurer, aucun enfant n'en est suffisamment assuré. Et certains pourront peut-être objecter que s'il est sûr, même s'il a fait des bêtises, que ses parents continueront à l'aimer, eh bien, c'est pour lui la porte ouverte à d'autres bêtises, puisqu'il est tranquille sur ce plan. Et je pense que c'est très exactement le contraire, à savoir qu'un enfant que l'on aura rassuré sur l'amour qu'on lui porte sera moins tenté, il en fera comme tout le monde et comme les adultes, sera moins tenté de faire des bêtises dans la mesure où ce qu'on appelle faire des bêtises, je dirais y compris pour un adolescent se droguer ou faire des choses de ce genre, ce qu'on appelle des bêtises, faire des bêtises est entre autres une manière, je pense, de tester l'amour de ses parents. Si on est à peu près sûr, on n'est jamais complètement, si on est à peu près sûr de cet amour, alors pourquoi se faire du mal, pourquoi se droguer, pourquoi tenter de se suicider si ça n'est pas pour appeler au secours les parents, si les parents, on est sûr qu'ils sont là pour nous aider le moment venu, on n'a presque plus besoin de faire des bêtises, on n'a presque plus besoin de se mettre en l'air avec de la drogue ou avec autre chose, puisque selon moi, prendre de la drogue, c'est un petit peu, tester l'amour de ses parents, voir si les parents viendront à notre secours alors qu'on se détruit soi-même. Après les menaces, quant aux choses à éviter, je pense qu'il faut éviter les coups. Vous savez qu'on est en train de discuter dans les hautes sphères de l'Assemblée la loi qui interdirait les châtiments corporels et beaucoup de gens disent « oui, mais les petites claques, les petites fessées devraient être permises. » J'ai même entendu des spécialistes, je pense à Patrice Huert, que j'ai entendu l'autre jour à la radio, qui est un psychiatre, par ailleurs, que je respecte, et on lui demandait « est-ce qu'il faut interdire les fessées ?» Non, disait-il, parce que si un enfant a fait une bêtise et qu'on lui donne une fessée, ça le déculpabilise de recevoir un châtiment. Je crois que cet homme, encore une fois, qui a dit des choses justes pour le reste, eh bien, se trompe complètement sur ce plan. Je ne pense pas du tout qu'une petite, entre guillemets, fessée ou une petite claque fasse du bien. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans le registre de l'humiliation. Même une fessée dite petite humilie, y compris, c'est la même chose pour une claque. On ne le fait pas pour les adultes, c'est passible de poursuite. On le fait pour des enfants qui sont encore plus sensibles et qui sont d'autant plus sensibles que ça vient de leurs parents qu'ils aiment. Par conséquent, je crois que cette loi, et la pratique de toute façon, parce que la loi ne peut pas tout faire, bien entendu, la pratique d'abolir les châtiments corporels serait une bonne chose. Je pense que, encore une fois, il n'existe pas ni de bonnes fessées, ni même de petites fessées, parce que c'est fait pour humilier et ça y réussit. Vous connaissez tous l'histoire de Rousseau dans les Confessions. Il dit avoir reçu 2 fessées, et pas très fortes, dans sa vie à l'âge de 8 ans. Et dit-il, ça a eu de l'influence sur moi pour tout le reste de ma vie. Ça l'a rendu masochiste, dit-il. Quand il était avec une fille, il lui demandait plus tard, à l'adolescence et plus tard, de lui donner une fessée à son tour. Bref, ça a orienté sa vie, dit-il lui-même, 100 ans avant la psychanalyse. Donc pour le reste de ses jours, alors que c'était des fessées pas très fortes, qui ne lui ont pas fait très mal, mais voilà, il y a pris goût, parce que le pire de cela, c'est d'y prendre goût. On est, je dirais, dans la nasse, et c'est très difficile de s'en sortir. Par conséquent, je crois à la nécessité d'éviter les coups, outre les menaces. La troisième chose à éviter, je dirais que ce sont les humiliations, d'une manière générale. Il n'y a pas que les coups, il y a aussi naturellement les choses verbales qui peuvent faire beaucoup de mal. Et là encore, souvent avec la meilleure conscience du monde, on ne parle pas ici de parents monstrueux, on parle de parents comme nous tous, comme nous le sommes tous, et qui font tous des erreurs, et moi le premier. Je veux dire que parfois on fait de l'ironie auprès des enfants, et là encore je crois que c'est un tort. Un enfant, je dirais au moins jusqu'à 10 ans, ne perçoit pas l'ironie comme telle. Il peut prendre les choses au sérieux et se sentir humilié par telle remarque que nous ne voulons pas du tout humiliante. Mais c'est comme ça. je crois qu'il faut faire très attention à une ironie, en particulier quand on en parle devant l'enfant, à d'autres personnes. C'est tout à fait important, je crois, de penser à cela. La quatrième chose, eh bien, c'est la dévalorisation de l'enfant. La quatrième chose à éviter, c'est la dévalorisation de l'enfant. Il me semble que on peut élever un enfant, certes, en criant contre lui de temps en temps, mais sans lui dire qu'il est méchant. Quand il fait une bêtise, je ne veux pas que tu le refasses, mais pas tu es méchant, parce que ça, c'est une chose terrible, parce que ça met en cause l'ensemble de sa personnalité. Et pas non plus tu es nul, tu n'arriveras jamais à rien. Ce qu'on a peut-être envie de leur dire, de même qu'on a envie de les taper, c'est évident. Mais je pense que si on résiste à ces envies, eh bien, on tient le bon bout, si je puis dire. Je me souviens d'avoir entendu l'écrivain Frédéric Dard, bien connu, dire qu'il était déjà âgé à ce moment-là. Il avait un fils et une fille. Il a dit « Je n'ai jamais tapé ma fille, par contre mon fils, je l'ai beaucoup tapé. Et quand j'y pense aujourd'hui, son fils avait 40 ans, quand j'y pense aujourd'hui, disait-il, je voudrais me couper la main. » Voilà. Eh bien, pour éviter de semblables regrets plus tard, je pense qu'on peut essayer d'y échapper tout de suite. Ça n'est pas la peine de se préparer des regrets pour la suite. Il vaut mieux éviter cela. La cinquième chose, alors, ça n'est pas une chose à éviter, mais plutôt à promouvoir, toujours pour essayer d'atténuer l'angoisse, c'est de laisser à l'enfant le plus possible une certaine liberté. Ça n'est bien sûr pas possible dans tous les domaines. Si l'enfant se met à traverser la rue tout seul, il ne s'agit pas d'aucune manière naturellement de le laisser faire. Mais je pense, par exemple, j'ai vu que d'ici 15 jours, j'ai vu une affiche à la porte, on allait parler de l'obésité, je crois, dans ce centre, il y a, ou pas loin d'ici, un colloque sur l'obésité. Je citerai, si vous le permettez, une dernière anecdote personnelle. Quand mes enfants étaient bébés, leur mère mettait dans le biberon toujours plus que ce qu'ils pouvaient boire de lait, en sorte que c'était eux qui décidaient d'eux-mêmes du moment où ils s'arrêtaient. Eh bien, aujourd'hui, ils me stupéfient encore par la manière dont ils savent s'arrêter de manger quand ils n'ont plus faim, y compris si on leur sert un gâteau au chocolat qui est leur mets favori, eh bien, ils s'arrêteront au milieu. Autrement dit, ils savent quand ils n'ont plus faim, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et je dirais que si on les laisse libres de la nourriture, alors l'obésité n'est pas en vue. Et là, beaucoup plus tard, quand mon fils aîné avait 12-13 ans, il s'est mis à manger, je dirais, un peu trop. Il est devenu quand même un peu rond. Et ma femme et moi, on se mordait les lèvres, si je puis dire, pour ne pas intervenir, pour ne pas lui dire « ça suffit, tu as assez mangé ». Et effectivement, au bout d'un an ou deux, il s'est arrêté de lui-même de trop manger. Et au jour d'aujourd'hui, il n'est plus du tout rond, enfin il est, je dirais, normal, mais je pense que la seule manière d'éviter l'obésité, c'est de les laisser, contrairement à ce qu'on dit, manger ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Ils mangent aussi bien entre les repas, mais comme on les laisse libres, je pense qu'ils n'ont guère de risque de devenir obèses, car la liberté est quand même, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, quelque chose d'irremplaçable. Et je dirais que pour essayer de mettre en œuvre tout cela, ce qui est très difficile, il faut avoir une conviction très difficile, je veux dire, personne ne peut le faire tout le temps. Pour essayer néanmoins d'être fidèle à ce programme, entre guillemets, il faut avoir une conviction, mais chevillée au corps. C'est la conviction que nos enfants nous aiment. Ça n'a l'air de rien, mais cette conviction, personnellement, je la perds 10 fois par jour quand je vois ce que font mes enfants comme ça toute la journée. C'est très difficile d'avoir cette conviction, et pourtant c'est la vérité. Je lisais dans Bettelheim que certaines mères de nourrissons, donc tout petits, pensaient que leur bébé les rejetait parce que le bébé leur donnait des coups en têtant. Bettelheim a découvert naturellement que ça n'était pas un rejet, mais que c'était parce que les bébés étaient mal placés, les mamans n'arrivaient pas à bien les placer pendant la tétée. Voilà. Et ces mères de tout petits s'imaginaient donc que leur bébé les rejetait. Et Bettelheim était là, mais malheureusement, il n'y a pas toujours quelqu'un. Bettelheim était là pour leur dire que non, ça n'était pas possible. Un bébé ne rejette pas sa mère, ni son père. Et je dirais plus, même un adolescent ne peut pas rejeter sa mère ni son père, même quand il lui dit « tu me fais chier » ou quelque chose de ce genre. C'est autre chose. Bien sûr, il les rejette en apparence. Mais si on réussit, même adolescent, à continuer à penser qu'ils nous aiment, alors, là encore, je pense qu'ils sont sauvés. Je vous remercie.
Y a-t-il des questions ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'éducation à la propreté. J'ai un petit garçon d'un peu plus de 2 ans, donc avec lequel que je laisse très libre à ce niveau-là. Et j'ai la conviction intime que ce n'est pas du tout le cas de sa nourrice. Pour dire les choses crûment comme vous l'avez fait, il est très gêné quand il fait caca, enfin, quand on veut le changer plus particulièrement, comme s'il avait honte. Enfin, je sens qu'il y a une gêne à ce niveau-là. Ça se ressent aussi dans son vocabulaire, donc je sens que c'est en rapport avec la nourrice. Alors, est-ce qu'il faut intervenir ? Est-ce que le principal, ça se passe entre lui et nous ? Je ne sais pas.
Est-ce qu'il y va le lundi ? Eh bien, alors, intervenez demain matin, à mon avis. Et je dirais presque, changez de nourrice. Et si vous ne pouvez pas en changer, mettez-la en garde contre toute intervention. Maintenant, d'après ce que vous me dites, je dirais que le mieux, ce serait d'en changer de nourrice, parce que c'est très difficile de faire changer les gens à ce niveau-là.
Elle est quand même très ouverte au dialogue, donc j'ai bon espoir.
Ah bon, alors à ce moment-là, oui. Si vous pouvez lui dire, mais alors, lui faire jurer, si je puis dire, de ne plus culpabiliser votre fils, de ne plus intervenir à ce niveau-là du tout, alors vous pouvez peut-être lui donner une chance. Mais je dirais qu'il ne faut pas, effectivement, la nourrice est un personnage incontournable dans ce cas-là, il ne faut pas permettre à quelqu'un de mettre en l'air ce que vous faites vous-même à votre enfant. Donc je veux dire, ou elle change de façon radicale et de façon à ce que vous vous en rendiez compte, à mon avis, ou c'est vous qui en changez, voilà le conseil que je me permets de vous donner.
Je vous remercie.
Toujours sur le même sujet, je reçois un petit garçon de 3 ans au cabinet qui, lui...
Vous êtes psychothérapeute ?
Oui, je suis psychothérapeute.
Oui.
Qui, lui, donc, a des accidents lors de la sieste à l'école. Et le problème, c'est qu'effectivement, l'école le rejette. Alors, que
fait ? Vous voulez dire l'institutrice ?
Oui. Il retourne à la maison et ils n'en veulent plus pendant 3-4 jours jusqu'à ce que cela cesse.
Oui.
Alors, bon, le conseil que j'ai pu donner à la maman, c'est effectivement de...
Ah, ça n'est pas votre enfant, c'est l'enfant d'une autre personne, oui.
Oui, c'est l'enfant d'une consultante, de, effectivement, ne pas en parler. Mais le problème, c'est l'école. Il est rejeté par l'école. Alors, il y a toutes sortes de rejets que la maman ressent.
Oui, ben, de ne pas en parler, enfin, vous voulez dire de ne pas lui...
De ne pas
le blâmer,
oui,
enfin.
De ne pas le blâmer, voilà.
Oui, oui.
En disant, bon, ben, c'est un accident, ou... C'est pas un problème. Qu'elle le fait, il n'y a pas de souci. Elle va chercher son enfant à l'école, elle récupère le sac sans rien dire. Et à ce moment-là, l'enfant va lui en parler. Tu dis, tiens, on n'a pas parlé. Donc, elle fait cette démarche. Bon, voilà, c'est pas bien grave. Et puis, c'est tout, ça passera. Et par contre, au niveau de l'école, là, c'est le problème. C'est qu'il y a un blocage.
Oui. Ben, je dirais que c'est peut-être plus difficile que dans le cas de madame, parce que c'est plus difficile de changer d'institutrice que
de
changer d'école que de changer de nourrice. Néanmoins, je crois que votre patiente doit, comment dire, encore plus peut-être rassurer son enfant sur le fait que c'est l'école qui se trompe, que c'est l'institutrice qui se trompe, qui n'a rien compris, et non pas lui qui est en faute. Bon, je pense que la fonction de rassurement, si on peut dire, est encore plus importante de la part de la mère. Alors peut-être faut-il, comme dans le cas dont on parlait, que cette femme aille trouver l'institutrice, lui en parle, la directrice de l'école, que sais-je, et si elles ne sont pas... si elles ne veulent rien entendre, peut-être, encore une fois, soit mettre l'enfant à mi-temps, je ne sais pas, ne pas l'exposer à la sieste à ce moment-là, ou alors changer d'école. Mais peut-être, si ce n'est pas possible de changer d'école, le mettre que le matin... ne pas le laisser faire la sieste, parce que naturellement, il y a des gens effectivement qui ne peuvent pas comprendre ça. Donc je crois qu'il faut essayer de ne pas l'exposer en tout cas à ce genre d'humiliation possible, quoi. Voilà ce que je pourrais dire, je crois.
Merci. Moi, c'est toujours pareil. Enfin, c'est au niveau des enfants aussi, forcément. J'ai reçu en entretien une petite fille qui mordait, elle a 2 ans et demi, et elle mordait tout le temps à 100 à l'école. Donc elle est rentrée à l'école.
Elle demandait, pardon ?
Elle mordait. Elle mordait les autres enfants, et c'était vraiment. Elle est rentrée à l'école en septembre, donc c'était vraiment sa première année scolaire, et la première année scolaire pour tous les autres enfants qui étaient aussi dans la classe. Et elle mordait vraiment les enfants, c'était vraiment dès qu'on arrêtait de porter l'attention sur elle.
À 2 ans et demi.
2 ans et demi. Elle sautait sur le premier venu et elle commençait à le mordre.
Vous êtes thérapeute aussi ou...
Non, je suis éducatrice, mais je fais des entretiens familiaux dans une institution. Donc c'est vrai que bon, on a relevé aussi que les parents la chouchoutaient un petit peu beaucoup. C'était un petit peu un enfant roi quand même. C'était la seule fille, elle était très attendue. Donc on se demande s'il n'y a pas un problème au niveau des limites. Mais par rapport à cette petite fille, est-ce qu'elle peut ressentir de l'angoisse? Qu'est-ce qu'elle pourrait ressentir par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait qu'elle mord? Est-ce que vous auriez des réponses?
Selon moi, je combats, je dirais, vigoureusement la notion d'enfant roi. Alors, bien entendu, je pense comme vous qu'il faut des limites pour tout enfant. C'est une évidence. Hein. On ne peut pas laisser un enfant tout faire. Comme disait Neil, vous savez, l'auteur des Libres Enfants de Somerville, on lui amenait une petite fille qui sautait sur le piano avec ses chaussures et on lui disait, elle fait comme vous avez dit. Non, certainement pas. Il faut des limites. Cela dit, moi, je pense qu'une petite fille qui mord, c'est plutôt une petite fille qui a trop de limites ou plutôt qui est victime d'une certaine manière de violence. Elle a 2 ans et demi. Bon, je crois. Alors, s'il y a absence totale de limites, c'est une sorte de violence. Mais à mon avis, ça n'est pas ça qui compte le plus. Je pense qu'elle est véritablement victime de violence à la maison. Est-ce qu'elle reçoit des fessées? Est-ce qu'elle reçoit des gifles?
Oh non, 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 non. Mais les parents sont vraiment... c'est le papa, c'est vraiment la complicité. Tu peux pas faire ça. Hein. C'est vraiment les parents qui attendaient cet enfant. Il y a vraiment.
Je ne sais pas. À mon avis, il est impossible qu'un enfant de 2 ans et demi morde les autres jusqu'au sang, comme vous dites, sans être victime d'une manière ou d'une autre de violence à la maison. Lesquelles, je ne sais pas, mais ça ne lui vient pas tout seul. Ça n'est pas possible. Je pense. Je disais tout à l'heure que la clé pour moi, c'était de rassurer son enfant sur l'amour qu'on lui porte. Bon, je pense que les parents en question devraient faire cela. Je pense qu'ils devraient naturellement lui dire aussi que ça n'est pas possible de mordre les autres. C'est une évidence, c'est-à-dire lui fixer des limites. Un, lui fixer des limites. Deux, rassurer sur l'amour qu'on lui porte. Mais trois, pour moi, il est impossible, je ne sais pas, il faut peut-être chercher plus avant, il est impossible que cet enfant ne soit pas victime de violences et de violences fortes. Alors, est-ce que c'est les parents, est-ce que ça a été la nourrice, je ne sais pas qui, mais elle dit quelque chose en mordant les autres, n'est-ce pas? Bon, et ce qu'elle dit, ça ne peut être que j'ai été ou je suis moi-même victime de violence. De quelle nature, je ne le sais pas, mais il y a forcément une violence qu'elle a subie ou qu'elle subit actuellement, parce que à l'origine de cela, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus.
C'était un peu en manière de témoignage. J'ai eu 2 enfants et ma première fille, j'ai dû la mettre en crèche un peu tôt, à l'âge de 3 mois, parce que j'étais journaliste, j'ai dû retravailler très tôt. Et un jour comme ça, c'était la coutume voulait que dès que les enfants arrivent en crèche, on les mette sur le pot en petite ronde. Comme ça. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas exactement pourquoi. J'ai fait un pas en arrière où j'avais envie tout simplement de la voir une dernière fois avant d'aller travailler. J'ai regardé à travers la vitre et j'ai vu qu'elle venait de recevoir une tape sur la main parce qu'elle s'était touchée apparemment. Donc j'étais une jeune mère de 26 ans et j'avais lu Dialogue avec les mères de Bethelagne et d'autres choses déjà à l'époque. Et donc, forte de certaines lectures, certainement, ou je ne sais pas quoi, je me sentais quand même un petit peu plus armée à l'intérieur de moi. Et j'ai poussé la porte, sans colère, sans rien, très calmement. J'ai fait un signe à la tata, comme on les appelait. Et je l'ai appelée dans le couloir. Je lui ai dit, vous voyez ce que vous venez de faire là, je vous demande de jamais recommencer, du haut de mes 26 ans. Et elle était très troublée que quelqu'un se permette certainement de lui dire ça, mais je lui ai dit, et là-dessus, sans désemparer, elle m'a dit, mais vous ne vous rendez pas compte si on laissait tous les enfants faire ça. Ben, j'ai dit, faire ça peut-être, mais j'ai dit, si jamais je vous vois recommencer une seule fois, je vois la direction, et puis voilà, vous ne faites pas ça avec mon enfant. Justement.
Eh bien, si toutes les mères faisaient comme vous, je dirais que la terre se porterait mieux, voilà mon avis, pour soutenir ce que vous avez fait, qui est indispensable, effectivement, dans un tel cas. C'est mon opinion.
Moi, je remercie la dame, parce que je ne sais pas si elle a lu dans mon esprit, mais j'ai vécu dernièrement quelque chose avec mon fils à la sortie de l'école. Notre maman a humilié son fils et mon fils, mes deux fils, et j'étais incapable de réagir. J'étais consciente qu'elle l'humiliait parce qu'elle lui disait « Tu es vilain parce que c'est l'école, il y a le parc, donc le parc public, on était tous dans le parc public. » Et puis ils descendent de le toboggan, on n'a rien fait. Alors ils sont rentrés les trois ensemble. Et la maman, elle a couru. Moi, j'ai eu le temps de venir après. Et elle lui dit, vous êtes vilain et tout ça. Et moi, je suis arrivée, j'étais bloquée. Je n'ai pas réussi à avoir cette force. Je savais que c'était humiliant. Je ne savais pas quoi faire. Je savais qu'elle était en train d'humilier son fils et mes deux fils. Et je suis restée à ce point-là. J'étais mal et je suis encore mal. Voilà, donc comment réagir face à tout ça.
Oh bah, je crois que c'est simple. Bon, je veux dire, on n'a pas toujours la présence d'esprit, c'est tout à fait normal de réagir sur le moment. Mais bon, il suffit de dire à votre fils, voire même à l'autre enfant, qu'il n'est pas vilain en réalité, que par contre, naturellement, il ne faut pas sauver fiche le camp comme ça parce que c'est dangereux, ça, on peut lui dire, mais qu'il ne doit plus jamais refaire ça, mais qu'il n'est pas vilain. Vous savez, surtout à l'âge de vos enfants, il n'est certainement jamais trop tard pour rattraper une chose comme ça. Donc, vous n'avez pas à vous en faire. Rattrapez-le ce soir et je dirais tout ira bien.
Merci, monsieur.